les 7 milliards de voisins et voisines. Cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins sur RFI. Comme chaque vendredi, nous parlons d'éducation. Mais cette fois, place peut-être au rêve ou à la mémoire. Nous allons pousser les portes des plus belles universités du monde, de Boston à Cambridge, en passant par Heidelberg en Allemagne, ou Coimbra au Portugal. Comment les plus anciennes universités vivent-elles avec le poids de leur histoire, de leur patrimoine, de leur architecture? Les plus belles universités sont-elles encore aujourd'hui les plus prestigieuses? Enseigner, étudier sur les traces des générations dans des lieux aussi majestueux, est-ce que finalement cela modifie le rapport au savoir? Bienvenue en tout cas dans ces lieux temples de la connaissance qui sentent les parquets cirés ou parfois l'abandon poussiéreux, amphithéâtre, bibliothèque, réfectoire, cours d'honneur, chapelle, jardin. Nous allons en parler avec vous, Jean Serrois. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'université émérite de littérature et vous publiez un livre-album très beau, Les plus belles universités du monde, avec des photos remarquables de Guillaume de Laubier. 23 universités choisies, pas toutes très anciennes d'ailleurs. Il y a aussi l'université ultra-futuriste du Qatar. Et puis il y a aussi un institut en Suisse, me semble-t-il. Christophe Charles est également avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Paris 1, spécialiste des universités. Et vous avez entre autres publié une histoire des universités du 12e siècle au 21e siècle. Avec Jacques Verger, la nouvelle édition est revue et élargie aux éditions Presse universitaire de France. Marie-Céline Daniel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en civilisation britannique à Paris 4 Sorbonne. Et vous appartenez à cette nouvelle génération d'enseignants-chercheurs. Et vous avez séjourné dans des universités britanniques. Vous nous direz d'ailleurs ce que signifie concrètement enseigner dans une université qui traverse les siècles et qui se trouve aujourd'hui à la fois désargentée et magistrale, pour ne pas la nommer la Sorbonne.
Désargentée, on verra, peut-être pas.
Nous serons également en ligne avec Jean-Louis Cornille en Afrique du Sud. Il est professeur de littérature française à l'université du Cap, la plus ancienne ou l'une des plus anciennes universités du continent africain. Il y enseigne, lui, depuis 30 ans. Jean Serrois, alors à l'heure des classements internationaux qui classent selon les niveaux de recherche, les salaires de sortie des diplômés, pourquoi s'intéresser finalement aux plus belles universités du monde ?
Oui, alors il y a des raisons factuelles. Les éditions de la Martinière ont déjà publié deux albums, l'un consacré aux plus belles bibliothèques, l'autre aux plus beaux opéras, et donc ont eu l'idée de s'intéresser aux plus belles universités. Et lorsqu'on m'a proposé ce sujet, c'était naturellement une manière de voir l'université, peut-être de façon avec un prisme un peu différent que celui par lequel on les aborde habituellement. Et pour avoir pas mal roulé ma bosse dans la plupart de ces universités, pour y avoir été enseignant ou conférencier ou participer à des jurys de thèse, je me suis rendu compte que lorsqu'on est dans une université qui n'est pas la sienne, on la voit de façon différente, on la vit de façon différente et on est peut-être plus sensible justement à l'aspect esthétique de l'université qui lui donne une certaine couleur, une certaine chaleur, un certain esprit. Ouais. C'est une autre manière. Quand on y est, je dirais, de manière fonctionnelle, attelé à ses tâches quotidiennes d'enseignant et de chercheur, on ne fait peut-être pas suffisamment attention au lieu dans lequel on est, sauf pour en éprouver les éventuels inconvénients. Ça, on y est très sensible.
Oui, c'est ça. Vous voulez dire, Marie-Céline Daniel, vous ne faites plus attention au grand escalier d'honneur en pierre à la Sorbonne, par exemple.
Alors, très honnêtement, le grand escalier d'honneur de la Sorbonne, aucun étudiant ne le foule jamais et aucun enseignant-chercheur ne le foule jamais puisque ce sont des lieux qui ne sont pas ouverts aux étudiants. Donc, précisément, se pose une autre question qui est la question de la vie de ces bâtiments, enfin, en l'occurrence, du bâtiment de la Sorbonne en particulier, qui fait que globalement, les très belles photos qui se trouvent dans le livre sont des photos que les étudiants ne connaissent pas parce que les étudiants n'y sont pas acceptés. Ceci étant, pour ce qui est du poids des ans, je crois quand même qu'effectivement, il y a un phénomène de lassitude de la part à la fois des enseignants-chercheurs et des étudiants et des administratifs qui passent dans la cour d'honneur, qui ne regardent plus la chapelle et qui avancent. Ceci étant, je crois que tout le monde, enfin en tout cas moi, clairement, j'ai quand même souvenir de grands moments de plaisir et d'un peu peu de timidité la première fois que je suis rentrée dans la cour d'honneur en me disant quand même, il y a Richelieu qui me regarde et Victor Hugo. Et il y a quand même une tradition importante dans ces lieux. Donc ça ne veut pas dire que les lieux n'ont pas d'âme, mais c'est vrai qu'il est évident que d'y enseigner et d'y travailler sont deux aspects qui font qu'on ne voit plus que les défauts de ces lieux-là.
La question qui se pose tout de même, vous avez dû choisir, il n'y en a que 23 dans votre livre. Qu'est-ce qu'une belle université dans le fond ?
Je pense qu'une belle université, c'est celle qui représente l'importance que l'université veut donner à ce qu'elle dispense, c'est-à-dire le savoir. Alors naturellement, elles ont évolué. La plupart des bâtiments sont des bâtiments plus récents. L'aspect historique a compté parce qu'il y a quand même, en gros, trois types d'universités représentées. Les universités européennes, disons, du Moyen-Âge à la Renaissance, le moment où l'Europe se couvre d'universités. Ensuite, il y a le transfert de ces modèles, et en particulier du modèle anglo-saxon, du côté américain, les universités américaines du 18e, 19e siècle surtout. Et puis, il y a les universités d'aujourd'hui ou de demain, dont on a donné quelques exemples simplement, parce que soit elles n'existent pas encore totalement, elles sont en cours, et qui sont des universités qui accordent à la qualité architecturale en particulier, une importance que peut-être les constructions qui ont été faites, prenons le cas de la France, dans les années 60, 70, lorsqu'on est passé à un enseignement supérieur de masse.
Oui, au XXe siècle, là, on est dans la massification, il fallait loger les étudiants.
Il fallait loger les gens, d'où peut-être des qualités architecturales moindres. Donc une belle université, c'est une université qui se donne les moyens de sa représentation. Et en particulier, cette dimension importante, sans laquelle il n'y a pas véritablement de pouvoir, qui est la dimension spectaculaire.
Christophe Charles, les universités naissent dans l'Occident médiéval avec quels enjeux ?
En fait, il y a plusieurs cas de figure. Donc, les toutes premières sont des créations presque spontanées de communautés d'étudiants et de maîtres qui se rassemblent un peu comme une corporation et qui obtiennent au bout d'un certain temps la reconnaissance soit par le pouvoir politique, soit par le pouvoir religieux, puisqu'évidemment il s'agissait de surveiller un petit peu ce qu'on enseignait dans ces endroits à une époque où il y a quand même une doctrine officielle dont il ne faut pas trop s'écarter. Et puis après, il y a eu effectivement ce moment de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance où le pouvoir a considéré que le savoir était un enjeu très important pour son rayonnement, pour le développement du pays, pour la modernisation. Enfin, ça, c'est plutôt au XVIIIe siècle.
C'est le cas de la Sorbonne, mais pas seulement.
Plutôt des universités justement d'Allemagne ou alors d'Italie plus tardive. Et puis, surtout, tout ce qui s'est passé dans le Nouveau Monde, c'est-à-dire avec les Lumières, l'idée qu'il faut que toutes les parties du monde, ce qui n'était pas évident au départ, aient des universités. Le cas du Portugal est assez étonnant puisqu'il y a Coimbra et tous les Brésiliens, qui sont quand même à l'époque dans l'empire colonial, vont faire leurs études à Coimbra. On ne crée pas d'université au Brésil au démarrage. Elles sont beaucoup plus tardives qu'ailleurs. Alors qu'inversement, les Espagnols, eux, ont créé assez tôt des universités au Mexique, au Pérou, dans tous les pays d'Amérique latine. Donc on voit bien que l'université devient un enjeu politique et un enjeu aussi de rayonnement intellectuel, puisqu'on veut attirer des étudiants du monde entier. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est le mot d'ordre international, la mondialisation des études.
Vous le disiez, Jean Serrois, les Américains, l'Amérique, le Nouveau Monde, l'Amérique du Nord, a inventé une autre forme d'université, c'est-à-dire des universités campus, alors que les universités médiévales sont au cœur de la ville. L'université de Bologne est dispatchée dans toute la ville.
Bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une projection des modèles architecturaux, en particulier Oxford, Cambridge, qui sont quand même des références importantes, et on voit presque des universités américaines qui reproduisent quasiment à l'identique. Et en même temps, une adaptation, je dirais, à la fois à la situation politique et à la réalité géographique et topographique. L'Amérique, c'est un continent. On a de la place. On va donc créer des universités qui s'étalent d'une certaine manière. Et la notion de campus, la notion de domaine, qui est importante dans des villes comme Oxford, mais qui reste, disons, à l'intérieur d'un cercle, on voit à quel point ça peut prendre de l'importance aux États-Unis où, lorsque Thomas Jefferson crée et construit lui-même l'université de Virginie, c'est à la fois un acte politique puisqu'il veut former les élites de la nouvelle nation. Il est à la fois lui président des États-Unis, il est
architecte de l'université.
Et en plus, il se fait construire une magnifique villa palladienne dans ce campus. Et il organise le campus comme une sorte de cité presque utopique, avec un cheminement à l'intérieur de l'université tout à fait particulier. Donc on voit que il y a une adaptation, de la même manière qu'une université comme Stanford est une université qui intègre...
Sur la côte ouest,
sur la côte ouest.
États-Unis.
Et je pensais à ce qu'on disait à l'instant sur le fait qu'on ne voit pas toujours l'université où on est. Dans les retours que j'ai eus, bon, j'ai contacté un certain nombre de collègues que je connais ici ou là, et par exemple, pour Stanford, j'ai été en relation avec Jean-Marie Apostolides, qui enseigne à Stanford depuis des années, hein, et il m'a envoyé une lettre en me disant, j'ai redécouvert Stanford à travers les photos, je ne l'avais pas vu comme ça, parce qu'il y est depuis...
Qui est très hispanique, hein, quand on compare avec les universités américaines de la côte Est, avec un style très anglais, très
britannique. Et curieusement, moi j'ai préféré Stanford à Berkeley. Berkeley, si vous voulez, est une université qui a moins de caractère, alors que Stanford, qui a été fondée par un mécène, c'était la mémoire de son fils qui était mort, et ça n'est pas n'importe qui, ce monsieur Stanford, qui avait ce domaine à Palo Alto, c'est un des quatre constructeurs de la ligne de chemin de fer qui a traversé les États-Unis. Donc c'est une fortune qui elle-même représente cet esprit d'aventure et de conquête d'une nouvelle frontière, et naturellement ce domaine se transforme donc à la fois une sorte de cénotaphe, puisque c'est là aussi que résident les restes de la famille, mais en même temps à une sorte de prolongation à travers justement les générations qui vont suivre de cette volonté.
Alors, toute la question est de savoir, et évidemment je vais vous la poser à tous les trois, est-ce qu'intégrer une université qui possède une dimension esthétique et de mémoire, est-ce que cela aide à être un bon étudiant ou pas? On en parlera juste après Sisters Underground. It's a cruel June morning on the edge of the city. It's so damn hot and my neck is feeling gritty. I gotta find something to do. Cause if I don't pretty soon, I think I'll go lulu. Every day seems like the same old thing. Listen to the brothers talking about the damn Mac 10. I gotta roll, cause I got a feeling. I gotta keep the sound of the underground real lit. And I'm out like bell-bottom trousers. Fruity, funky, chunky, dropping beats by the hour. And you know, the sisters on the boulevard. Don't give me props, they're just too damn hard. Stroll right past them, roll right past them. Even though they talk rap and make me wanna blast them. Because I'm chill, I have to keep subliminal. Cause I know my enemies are white-collar criminals. Céline Daniel, vous enseignez à la Sorbonne, justement. Alors, est-ce qu'intégrer une université qui possède, qui est impressionnante, comme dans sa dimension architecturale, esthétique, par son histoire aussi, on peut peut-être rappeler en deux mots, Jean Serrois, la Sorbonne, fondée par Robert de Sorbonne.
Oui, mais à partir d'un lieu qui, ça n'est pas le premier collège qui était sur cette montagne Sainte-Geneviève. C'était un collège qui a été fondé d'ailleurs pour recueillir plutôt des élèves pauvres, enfin des gens qui n'avaient pas les moyens de s'y loger. Et puis la notoriété de ce collège a fait, et puis peut-être la facilité d'assimilation au nom Sorbonne, a fait que c'est à partir de là que s'est agrégé, disons, un pôle ce qu'on appellerait aujourd'hui un pôle universitaire, qui a pris ce nom de Sorbonne.
Marie-Céline Daniel, vous nous le disiez, c'est vrai que l'escalier d'honneur, les étudiants ne l'empruntent pas, ce sont des parties qui ne sont pas réellement ouvertes au public, en tout cas ces escaliers ne desservent pas de salle de cours, néanmoins tout le monde traverse la cour d'honneur, si je ne me trompe pas, si ça n'a pas changé, on passe devant la chapelle quand même.
Oui, alors non, mais même ça, enfin bien sûr, alors Vigipirate oblige, il y a beaucoup de gens qui ne passent plus par là, mais je crois surtout qu'il y a une particularité en fait de la Sorbonne, c'est que la Sorbonne n'est pas une université. C'est-à-dire que la Sorbonne est un bâtiment. Et je me mettrais à dos à peu près tous les universitaires parisiens si j'oubliais de mentionner que...
Vous allez décevoir nos auditeurs qui fantasment sur la Sorbonne dans le monde entier.
Absolument. Alors il y a un fantasme Sorbonne qui est évident. Fin janvier se tenaient les journées portes ouvertes de mon université où finalement les gens, les étudiants, nos futurs étudiants ou les futurs étudiants venaient pour étudier dans la Sorbonne. Donc ils avaient bien compris qu'il y avait la question de à la Sorbonne et dans la Sorbonne et il a fallu leur expliquer que désormais ça n'était plus du tout la même chose et que de fait ils n'étudieraient pas dans la Sorbonne, qu'ils étudieraient à une Sorbonne, et il y en a au moins trois à Paris qui se partagent le nom. Et donc ce bâtiment, il est en transition perpétuelle, c'est-à-dire que...
Et au Moyen-Âge aussi déjà, on manquait de place. Hein,
c'est vrai, mais alors là, il y a des luttes de pouvoir assez sauvages entre la tutelle, le rectorat,
mais
les différentes universités.
Mais pour les étudiants qui ont des cours dans ce bâtiment-là,
Sainte-Geneviève. Ils sont très peu nombreux. Non, mais il faut le dire. Ils sont très peu nombreux et ils sont de moins en moins nombreux au fur et à mesure des années.
Les amphithéâtres ne sont pas vides.
Non, mais comme il y a trois universités qui se partagent le lieu, il y en a très peu au final qui jouissent de ces lieux. Après, il n'en reste pas moins que la Sorbonne est un lieu de mémoire et il me paraît évident que ce fantasme de la Sorbonne a une influence sur le plaisir des étudiants. Je crois que eux se sentent un élément ou le maillon d'une tradition. Même si, effectivement, à la sortie, ils sauront bien que tout ça, ce sont des mots et que cette Sorbonne, elle est presque conceptuelle tellement elle est peu réelle, en fait, dans la vie des étudiants. Elle est présente dans la vie des universitaires via des lieux type la bibliothèque, qui continue à être un véritable lieu de savoir, un lieu de transmission aussi. Mais la Sorbonne bâtiment devient, alors on n'est pas encore du tout au stade de la coquille vide, mais il me paraît évident que c'est une menace qui pèse sur le bâtiment. Et la question subsidiaire sera de savoir si une université sans étudiants reste une université.
Christophe Charles, je vous pose la question alors.
Je pense qu'effectivement, la plupart de ceux qui arrivent à la Sorbonne sont venus de lycées qui ne sont pas toujours des endroits non plus très excitants sur le plan architectural, donc qui comparent aussi ce qu'ils ont connu avant. D'autres arrivent après être passés dans des premiers cycles qui sont en général dans des bâtiments extraordinairement mauvais en termes d'architecture, hein, puisqu'ils ont été construits effectivement dans la période des années 60-70 et ils sont assez dégradés. Donc c'est vrai que par contraste, il y a un sentiment de plaisir d'être dans un lieu qui a un esprit historique et qui a aussi un souci de décoration. Faut insister là-dessus. Il y a eu tout un programme iconographique au moment de la reconstruction de la Sorbonne de la fin du 19e siècle.
Et avec
en
des
même
peintures
temps,
qui,
il y a
des
contraintes.
L'histoire aussi de la Sorbonne dans les galeries.
Oui, oui. Il y a des contraintes négatives, c'est-à-dire non seulement ce fait qu'on est obligé de partager à plusieurs universités le même lieu, que le recteur est envahissant parce qu'il a de plus en plus besoin de bureaux et les bureaux, ça prend beaucoup de place.
Vous faites passer des messages. Les enseignants à la Sorbonne n'ont pas de bureaux, je crois.
Si on en a, mais à plusieurs, donc c'est comme si on n'en avait pas, parce qu'on gêne toujours le collègue. Ce qui est gênant surtout, c'est que ça a été conçu évidemment à la fin du 19e siècle, dans un autre état du savoir. Donc il y a évidemment des disciplines qui ne sont pas forcément à l'aise dans ces bâtiments. Il y a tout le côté ancien qui fait que pour aménager quelque chose de moderne, il y a des travaux complexes parce que ce n'était pas prévu et il faut que l'architecte des bâtiments historiques donne son avis.
Enfin, c'est une université qui est prisonnière de sa mémoire, donc, de son passé, comme Rome peut l'être en tant que ville.
Et c'est ça la différence avec les universités américaines dont parle Jean Serrois dans son livre, c'est-à-dire il y a ces effectivement bâtiments historiques, mais à côté on a créé des tout nouveaux bâtiments totalement modernes et qui sont eux adaptés. Tandis que la Sorbonne, vu qu'elle est en pleine ville, elle n'a pas l'espace pour avoir ces extensions, donc toutes les extensions sont extérieures, périphériques, et ça casse évidemment l'esprit collectif, en tout cas l'unité de lieu qui était l'intérêt de cet endroit.
Vous restez avec nous, bien sûr, on va poursuivre cette discussion, et pas seulement autour de la Sorbonne, il y a 23 universités dans votre livre, Jean Serrois, on parle parlera des universités au Portugal, en Allemagne, évidemment en Angleterre, aux États-Unis, Bologne, très très belle université de Bologne en Italie. Jean Serrois, Christophe Charles et Marie-Céline Daniel, vous restez avec nous suite de ce voyage dans les temples de la connaissance. Ce sera juste après le flash dans un peu plus de 3 minutes maintenant sur RFI. 7 milliards de voisins, restez avec nous. Les 7 milliards de voisins et voisines, cette semaine, je vous propose de réécouter ou d'écouter les émissions qui ont eu le plus de succès pour tous ceux qui n'étaient pas à l'écoute ce jour-là.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI pour parler d'éducation comme chaque vendredi. Nous sommes aujourd'hui, c'est un peu particulier, dans les temples de la connaissance. Enfin, nous faisons comme si, avec Jean Serrois qui publie les plus belles universités du monde. Photos dans des lieux vides d'ailleurs, comme pour mieux saisir la ferveur, une forme de recueillement. 23 universités sélectionnées, évidemment beaucoup en Europe, aux États-Unis, à Beyrouth, au Qatar pour les universités.
Trois aires géographiques, disons l'Europe en effet historique, du Moyen-Âge à la Renaissance, le côté anglo-saxon, le continent américain, États-Unis, Canada, et puis ces nouvelles universités. On a choisi deux ou trois exemples, le Liban, le Qatar et la Suisse, pour un type d'université qui est en train justement peut-être de se développer avec le Rolex Center, voilà. Qui est une université privée sous contrat mi-public, mi-privé.
Et qui avec évidemment tous les équipements technologiques.
Exactement. Et avec en effet les horloges Rolex. Ça va de soi.
Christophe Charles, vous êtes également avec nous. Vous avez publié l'histoire des universités du 12e au 21e siècle. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire des universités et des jeunesses. Marie-Céline Daniel, vous êtes maître de conférence en civilisation britannique à Paris 4, Sorbonne. Évidemment, on parlait en première partie de la grande majesté des locaux de la Sorbonne, mais qui ne sont pas toujours très adaptés pour la vie quotidienne des enseignants qui parfois n'y font que passer. Nous sommes également en ligne, justement, parce qu'il n'y a pas d'université du continent africain dans votre livre, Jean-Louis Cornille, mais il n'y a que 23 universités, vous ne pouviez pas forcément couvrir tous les continents. Nous sommes en ligne avec Jean-Louis Cornille en Afrique du Sud, professeur de littérature française à l'Université du Cap depuis près de 30 ans. Bonjour Monsieur Cornille.
Oui, bonjour Emmanuel.
Vous êtes spécialiste entre autres de l'écrivain martiniquais Chamoiseau. Alors vous enseignez au Cap, c'est la plus belle et la plus ancienne université d'Afrique du Sud ?
Oui, c'est sûrement sous sa première forme de collège d'Afrique du Sud, la première institution, universitaire, quoiqu'elle ne soit pleinement devenue université qu'en début du XXe siècle,
ouais.
Alors qu'elle avait été commencée comme un collège vers 1830. Les bâtiments qui sont ceux de l'université aujourd'hui sont assez spectaculaires d'abord par leur situation.
Ouais.
Ils sont situés à flanc de colline sur la fameuse montagne de la Table, du moins une arrière-partie de cette montagne de la Table, qui s'appelle le Pic du Diable. Elle est donc visible, je dirais, depuis l'aéroport. Mm. C'est ce qu'on voit en s'approchant de la ville. Et donc ça joue aussi un petit peu comme symbole. Ça inspire et on aspire à joindre ce lieu de savoir, quoi. Il est offert en quelque sorte en pâture aux populations. C'est-à-dire que si on regarde vers la montagne, on voit l'université, ouais, qui surplombe la ville.
Alors, cette université donc, qui a été construite, rappelez-nous, en quelle année, grosso modo, même si ça n'était pas réellement...
Les bâtiments, c'était 1830, les bâtiments proprement universitaires, ça date, disons, du début du XXe siècle.
Mais comment... Alors, historiquement, bien sûr, il s'agit d'une université blanche.
Blanche, mais anglo-saxonne, c'est-à-dire... tout de suite avec une connotation libérale, c'est-à-dire non-africanaire et non ségrégée. L'université a toujours essayé, dans la mesure du possible évidemment, tout en restant dans les limites de ce que permettait le gouvernement d'alors, de sinon combattre, du moins essayer de transgresser quand même les lois de l'apartheid, en essayant aussi bien d'intégrer des étudiants noirs sous l'apartheid que des enseignants noirs.
Aujourd'hui, il y a 25 000 étudiants, c'est ça à peu près ?
Oui, c'est ça.
Quelle est la proportion d'étudiants blancs et non blancs ?
Mais elle évolue depuis, je dirais, 20 ans au moins, dans le sens d'un moitié-moitié, quoi.
En mars dernier, il y a eu des révoltes sud-africaines dans des campus, notamment dans l'Université du Cap.
Oui, alors c'est assez intéressant, ça s'est passé 20 ans après la fin de l'apartheid. On s'est rendu compte qu'il y avait une statue au nom de Cécile Rhodes, qui est un grand colon, un grand colonisateur.
Mania du diamant et personnage historique de la colonisation britannique.
D'après lequel la Rhodésie avait été appelée telle. Bon, ben, ça a donné quelques échauffourées sur le campus même. Finalement, la statue a été déplacée. Ça a quand même eu des répercussions jusque dans le monde anglo-saxon, puisque à Oxford, on vient de décider de ne pas déplacer leur statut de Cecil Rhodes.
Alors, moi, j'ai lu dans la presse que des étudiants ont recouvert d'excréments la statue géante de Cecil Rhodes. Ça prouve bien que le symbole et une architecturale peut être vécu comme très fort politiquement ou en tout cas pour certains étudiants.
Oui. Effectivement, l'administration de UCT avait essayé d'amortir le choc, en quelque sorte, du point de vue de la transformation, en renommant certains bâtiments qui avaient des noms de personnages britanniques en noms de personnages africains. Mais ça n'a visiblement pas suffi. Et donc, c'est comme ça qu'on en est arrivé à ces statuts. Bien évidemment, il y aurait d'autres symboles auxquels on ne touche pas, qui sont les bâtiments eux-mêmes. On parlait tout à l'heure de temple de savoir. Bien, il y a évidemment une espèce de copie du Parthénon, qui est l'emblème même de UCT, et qui a même figuré sur CNN comme l'emblème de l'Afrique du Sud.
Ouais, ouais. Marie-Céline Daniel.
Oui, je pense que cette question des noms est particulièrement importante parce que dans tout un tas d'universités anglo-saxonnes, le financement à l'origine est privé. Et donc ça pose la question du mécénat et de l'historicité du mécénat. C'est le cas de Rhodes, c'est le cas, je suis sûre qu'aux États-Unis, il y a un certain nombre d'associations qui doivent se poser des questions sur l'origine de la fortune des grands mécènes, des Rockefeller et des autres qui ont effectivement à un moment donné financé ces universités. On sait à quel point dans les pays anglo-saxons, il y a énormément de questions qui se posent sur l'origine des fonds, la question de l'esclavage, de la construction des chemins de fer dont on parlait tout à l'heure. Et il est évident qu'en France, pour l'instant, le problème ne se pose pas parce que précisément le financement est essentiellement public, mais néanmoins, on va vers une privatisation des financements, qu'on le veuille ou non. Et il est évident que les universités sont prêtes désormais à louer ou donner les noms de bâtiments à des bienfaiteurs éventuels, et se posera effectivement cette question-là. Il est difficile d'imaginer effectivement qu'une université célèbre Rhodes des personnages qui nécessairement à un moment donné de leur vie ont pu écrire des choses qui seraient absolument inadmissibles, pas forcément des gens qui sont aujourd'hui l'objet de controverses.
C'est une vraie question, comment ont été construites toutes ces universités. D'ailleurs, vous en parlez dans votre livre, Jean Serrois, parce que aujourd'hui on peut s'offusquer de l'Institut Rolex en Suisse en disant que mon Dieu, quelle vulgarité, mais en réalité c'est comme ça depuis de fort longtemps, notamment pour les campus américains et pas seulement, y compris en Grande-Bretagne.
Le cas du Cap est intéressant. C'est une université que, dans la première liste que nous avions faite, nous avions intégrée.
Vous avez failli avoir la visite de Jean Serrois.
Elle s'est trouvée en balance avec une autre université. Qui est l'université américaine de Beyrouth, qui présente un petit peu ce type de problématique. C'est une université, disons, d'importation, qui est venue du côté américain. C'est un pasteur américain qui est venu fonder cette université, après une levée de fonds privés, naturellement. Et avec une volonté un peu œcuménique, je lis que l'esprit de l'université, dès le départ, c'est son fondateur qui parle, était faite pour accueillir tout étudiant blanc, noir ou jaune, chrétien, juif, musulman ou athée. On voit bien
à Beyrouth.
Donc Beyrouth. Alors, on a regardé les deux. Pourquoi Beyrouth l'a remporté sur le Cap? Non pas parce que le Cap n'est pas une ville superbe et que l'université ne soit pas belle. J'étais allé au Cap justement pour voir ça. Et c'est en effet cette arrivée sur le Cap avec cette montagne assez impressionnante et l'université qui en fait partie d'une certaine manière. On a choisi finalement Beyrouth parce qu'elle est aussi très très belle et parce qu'elle se trouve au cœur d'une partie du monde dans laquelle ce type de problématique se pose alors de manière peut-être encore plus forte qu'ailleurs. Et d'autre part, parce que dans cette partie-là, les éléments d'importation architecturaux se sont fondus avec les éléments du lieu, du pays, l'architecture arabe, les moucharabiers, etc. Tous éléments qui, architecturalement, donnent une sorte de compromis, on pourrait dire. Et enfin, dernier élément, s'il y a eu des événements au Cap, et vous venez de les rappeler, il y en a eu naturellement aussi à Beyrouth, et en particulier qui ont abouti à, au dynamitage de l'université. Ce clocher qui était au milieu, en 91, a sauté, si vous voulez, il a été reconstruit à l'identique. Donc les deux universités étaient un peu en concurrence, il a fallu en choisir une.
Christophe Charles, sur les fonds privés, peut-être vous souhaitez réagir?
Oui, alors c'est effectivement une problématique très particulière au pays de langue anglaise. Ceci dit, en ce moment, vous savez, il y a des projets de création de fondations, enfin il y en a qui sont déjà créés pour financer justement des universités françaises. La Suisse, effectivement, a l'air très en avance avec ce centre Rolex. En fait, là, on n'est plus tout à fait dans le même mécénat, puisque là, c'est des sociétés, souvent multinationales, donc c'est pas forcément une personne qu'on peut identifier avec des opinions ou avec un profil idéologique comme Cécile Rhodes ou d'autres. Donc, je ne pense pas que ça posera peut-être les mêmes problèmes ultérieurement. C'est plutôt le fait que si ces sociétés un jour, je ne le souhaite pas évidemment, disparaissent ou n'ont plus la même prospérité, comment les universités vont-elles continuer à survivre si leurs fondateurs ne payent plus ?
On va en discuter. Jean-Louis Corny, je sais que vous enseignez aussi de temps à autre à Madagascar, qui évidemment est dans un tout autre état par rapport à celle du Cap.
C'est en Tirane, qui est une zone un petit peu délaissée dans la géographie malgache, et qui est donc tout à fait dépourvue de fonds, où les bâtiments ne sont pas entretenus, et où malheureusement, bien sûr, l'enseignement en pâtit également.
Alors vous m'avez dit, d'ailleurs, c'est intéressant quand vous allez à Madagascar, parce que vous vous rendez compte à quel point les étudiants sud-africains à l'Université du Cap n'ont pas conscience de la beauté des lieux dans lesquels ils viennent étudier, finalement. Peut-être vous aussi, d'ailleurs, c'est quand vous allez...
Oui, ben, évidemment, on ne la voit pas de loin, on est dedans. Mais c'est sûr qu'ils savent très bien qu'ils sont dans une des meilleures universités d'Afrique, classée d'ailleurs parmi les 120 meilleures universités du monde pour sa qualité de la recherche. Donc ça, ils en ont conscience. Quant à l'architecture, ma foi, je crois que... Il s'en soucie beaucoup moins, évidemment.
Merci en tout cas beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Jean-Louis Corny, professeur de littérature française à l'Université du Cap en Afrique du Sud. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Got in my car, raced like a jet all the way to you. Knocked on your door.
Blessing till the day I die. say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but no still means no.
Des plus belles universités du monde aujourd'hui chez 7 milliards de voisins en ce vendredi jour dédié aux questions d'éducation. Justement, Jean Serrois, vous avez choisi ces universités, ces 23 universités dans votre livre parce qu'elles ont une dimension esthétique évidente, d'ailleurs, y compris des universités très récentes comme l'université du Qatar, qui est un bâtiment très, très futuriste, posé un peu en plein désert. Néanmoins, aujourd'hui, à l'heure des classements internationaux, est-ce que ces universités sont toujours en tête des classements internationaux pour celles que vous avez choisies, par exemple en Amérique du Nord, en Angleterre,
oui, Oxford, Cambridge, sans aucun doute, Princeton, Yale. Ne sont pas dans le livre toutes les universités qui figurent dans les classements internationaux, mais toutes celles qui figurent dans le livre y sont. Hein, c'est-à-dire que on peut quand même établir un rapport entre l'excellence scientifique d'une université et la qualité du lieu qui l'accueille. On a peu d'exemples d'universités totalement délabrées, si vous voulez, qui soient à la pointe de l'excellence scientifique.
Oui, parce qu'évidemment, les beaux bâtiments, les bâtiments prestigieux chargés d'histoire attirent aussi les meilleurs chercheurs, attirent l'argent pour les rénover.
Et attirent peut-être aussi la politique de prestige attire une politique d'excellence qui est quelquefois une politique de sélection. Un certain nombre d'universités américaines recrutent évidemment sur dossier, recrutent les meilleurs étudiants. Celui qui est pris à Princeton, à Yale, à Harvard, à Chicago, sait très bien, si vous voulez, à Cornell, dans ces grandes universités, sait très bien que son avenir est fait d'une certaine manière. Et donc, il y a là un attrait du lieu qui entretient sa propre légende, je dirais, par un investissement toujours important. Ce qui est intéressant dans les universités américaines, c'est que les nouveaux bâtiments sont toujours confiés à de très grands architectes. C'est pas des petits préfabriqués qu'on met comme ça, mais on fait appel à Frank Gehry, à Norman Foster, etc. Et on a affaire à ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Donc ce prestige, il est lié à des conditions économiques aussi, il ne faut pas le nier. Et d'autre part, cela attire aussi les meilleurs chercheurs. Évidemment, puisqu'on est dans des universités qui peuvent payer les enseignants, on paye mieux ceux que l'on veut avoir, et du même coup, on peut se payer les meilleurs.
Ouais. Alors évidemment, on est très loin là du monde de la Sorbonne, qu'on décrivait en première partie d'émission avec vous, c'est Marie-Céline Daniel qui enseignait toujours à la Sorbonne. Mais finalement, on voit bien qu'il y a plusieurs conceptions dans ces universités prestigieuses de par leur passé, en tout cas. Il y a l'idéal démocratique qui est confronté avec l'idéal méritocratique ou l'idéal égalitariste. Enfin, tout ça s'entrechoque, mais ne cohabite pas forcément.
Exactement. C'est-à-dire que là, nous avons voulu montrer les lieux dans leur état, j'allais dire nu, d'une certaine manière, sans présence ni des professeurs, ni des étudiants.
Donc, c'est vrai que vu comme ça dans le livre, la Sorbonne apparaît exactement au même plan que Yale ou Princeton.
Exactement.
Hein, ou Oxford et Cambridge. Marie-Céline Daniel.
Oui, je pense que le mot a été prononcé, qui est le mot tabou des universités en France, qui est la question de la sélection. C'est-à-dire que l'université française fait face à une massification de l'enseignement supérieur qui fait que les établissements universitaires sont obligés de trouver des solutions pour héberger un nombre d'étudiants qui croît de manière exponentielle.
Et donc qui passent généralement par des bâtiments moches.
Des bâtiments qu'on peut faire comme on peut via des partenariats publics-privés et où en général la dimension architecturale est délaissée au profit du caractère pratique du lieu, précisément par opposition au bâtiment historique de la Sorbonne. Mais le résultat, c'est qu'effectivement, l'émotion esthétique est quand même très très limitée. Alors il y a des contre-exemples, quelques tentatives, en particulier sur le campus des Grands Moulins où Paris Diderot s'est installé, où on a voulu retravailler un patrimoine industriel et en faire un lieu de savoir. Donc il y a quelques tentatives, mais c'est vrai que globalement, on est plutôt dans des mesures d'urgence.
On a mis plus d'argent quand même pour la pyramide du Louvre que pour construire une université moderne et très belle.
Absolument.
C'est clair.
Voilà, non, mais il y a des choix. Il est évident que les universités américaines ne sont pas confrontées au même problème, ni de la massification, ni du financement, qui est quand même très largement privé. Et donc, elles disposent de fonds et puis d'une attractivité. Je suis entièrement d'accord sur l'histoire de la mythification qui s'auto-alimente. Et dont, effectivement, la Sorbonne Sorbonne côté rectorat, c'est-à-dire grand amphi, grand escalier. Là, effectivement, on met de l'argent et le lieu est magnifique. En ce qui concerne les salles de cours et le reste, ça devient beaucoup plus compliqué.
Il y a d'ailleurs quelque chose dans les universités.
Il faudrait aussi qu'on parle d'autres universités européennes, parce que est-ce que c'est la même chose? Les universités italiennes sont-elles confrontées à la même chose? L'université de Bologne, qui est une très très belle université, est-ce qu'elle est dans les mêmes difficultés que la Sorbonne, par exemple?
Oui, globalement, on peut dire que l'État européen est à peu près comparable, avec des différences locales, évidemment. Il y a des universités.
Donc le bloc anglo-saxon et puis le bloc latin.
Il y a des universités qui se débrouillent mieux et peut-être qui ont un sentiment de leur propre passé un peu différent. Je pense à une université comme celle de Cracovie, l'université Jagellonne, est très attachée à l'entretien de ses bâtiments. Il y a un conservateur des lieux, il y a vraiment...
On a mis de l'argent pour
la conservation. Ouais. Et il y a quand même une émotion formidable à voir le globe de Copernic, par exemple, hein, et il n'est pas sûr qu'une université qui aurait mis moins d'argent aurait conservé ce cadre dans lequel Copernic lui-même a travaillé et a réinventé l'univers d'une certaine manière.
Christophe Charles, on a beaucoup dit depuis le début de l'émission que ces universités s'étaient bâties sur les fondements de l'Occident chrétien. Est-ce que cela voulait dire qu'à l'époque, ces universités étaient relativement, bien sûr, elles étaient élitistes, étaient relativement refermées sur elles-mêmes? Est-ce que ça serait complètement anachronique de parler d'ouverture internationale au Moyen-Âge, par exemple?
Non, puisque justement, comme c'était une vision chrétienne, la nationalité... L'Europe, on était dans la même Europe, puisqu'on était dans la même chrétienté. Ce qui va casser ça, c'est la réforme, c'est-à-dire la séparation entre plusieurs branches du christianisme, et du coup, là, les gens ne circuleront plus entre université catholique et université protestante. Et puis après, il y a eu tout le problème de la laïcisation dans certains pays.
Donc au Moyen-Âge, on était presque au niveau de l'harmonisation des diplômes, vous voulez nous dire ?
Oui, il n'y avait pas de problème, puisqu'on avait la licence, le doctorat, enfin c'est les diplômes qui existent encore aujourd'hui, c'est des inventions du Moyen-Âge, donc on a maintenu les mots, même si ce n'est pas exactement la même chose aujourd'hui, mais enfin en tout cas, là, il y avait une unité. Alors l'unité s'est cassée avec la cassure religieuse, ensuite il y a eu la séparation de l'Église et de l'État dans certains pays, en tout cas la France, et donc depuis, évidemment, la reconstruction d'une communauté internationale doit passer par d'autres voies que l'unité religieuse ou que l'unité nationale. Non, je voulais citer un texte, je ne donnerai pas la date pour que vous voyez qu'il a toute son actualité, et pour justement un peu modérer votre enthousiasme patrimonial. Voilà, c'est un éminent universitaire du 19e siècle qui écrit « Je me demande si ces grands monuments inextensibles faits pour durer des siècles et des siècles répondront toujours aux exigences de la science. Qui sait ce que deviendront un jour son outillage et ses engins, et si au lieu de ces palais du rat, mieux n'eussent pas valu de simples ateliers légèrement construits, faciles à remplacer le jour où la science y aurait avantage. » Alors, celui qui a écrit ça, c'était le directeur de l'enseignement supérieur de la Troisième République, qui a eu d'ailleurs à reconstruire la Sorbonne et qui regrettait qu'on ait reconstruit la Sorbonne à l'identique, ou en tout cas dans un périmètre trop étroit pour ne pas prévoir la suite.
Ce monsieur aurait peut-être été critique par rapport à
Jean Serrois. Non, mais c'est lui qui est un peu responsable de la construction, mais il a regretté qu'on soit resté dans ce périmètre qui est trop étroit aujourd'hui.
Alors, j'en profite pour vous poser ma dernière question. Finalement, est-ce que cette façon comme ça de photographier les plus belles universités du monde, est-ce que vous n'êtes pas tombé dans une forme d'esthétisation du savoir ?
Il y a quand même une volonté de donner à voir les universités telles qu'on ne les regarde pas la plupart du temps. Lorsque l'on va, le tourisme de masse va visiter un pays, il va en priorité visiter des musées, il va en priorité visiter des châteaux, il va en priorité visiter des églises, et très rares sont ceux qui vont visiter les bâtiments universitaires. C'est idiot. C'est idiot parce que certains de ces bâtiments...
Parfois, ils ne sont pas ouverts,
mais bon. Oui, alors, mais on peut y aller, on a accès. Je parlais à l'instant de Cracovie, on peut le visiter comme on visite un château, il y a des heures d'ouverture.
Coimbra au Portugal, Salamanque en Espagne.
Simplement, ça ne fait pas partie de cette idée qu'une université peut être aussi un lieu dans lequel la dimension esthétique est essentielle, et peut-être même a-t-il beaucoup tenté au départ pour ceux qui ont conçu l'université? Alors, pas comme l'administrateur du 19e siècle, si vous voulez, qui lui avait à reconstruire une Sorbonne, mais pour ceux qui ont pensé que tout pouvoir qui doit s'affirmer doit montrer qu'il est un pouvoir, d'une certaine manière.
Marie-Céline Daniel, je vous laisse le mot de la fin.
Universités.
Oui, je pense qu'on en revient à l'histoire des universités. Effectivement, la Sorbonne devrait être ouverte. Là, les problèmes de sécurité font que le bâtiment n'est plus accessible. Mais la Sorbonne, effectivement, est une université dans la ville et qui a toujours été beaucoup plus ouverte que ne l'était par exemple Oxford ou Cambridge, où là on était non pas, c'était pas une université dans la ville, ce sont des villes-universités qui avaient prétention finalement à être un monde clos avec leur propre vocabulaire. Aujourd'hui, on parle d'accent d'Oxford. Il y a une forme de volonté d'être différent des autres. Et effectivement, la Sorbonne, à ce titre, était très, très ouverte, en fait. Et on peut que rêver, effectivement, que les intérêts économiques et commerciaux de nos universités fassent que ce bâtiment soit à nouveau ouvert au public, puisque finalement, l'université est un bien public au même titre que le musée. Ou que le château, et donc on peut vraiment, alors là si ça doit être le mot de la fin, je prie vraiment pour que ce bâtiment soit accessible à nouveau.
Et que de jeunes générations rêvent de s'asseoir tout simplement dans ces amphithéâtres pour écouter les cours magistraux. Merci beaucoup à tous les trois, Jean Serrois, les plus belles universités du monde, c'est à découvrir, c'est publié aux éditions La Martinière. On va mettre la liste des 23 universités sur notre page pour que ceux qui veulent décident de faire du tourisme universitaire puissent le faire, et on signale les très belles photos de Guillaume de Lobier. Christophe Charles, vous signez l'histoire des universités du XIIe siècle au XXIe siècle avec Jacques Verger, nouvelle édition, revue élargie aux presses universitaires de France. Et merci à vous, Marie-Céline Daniel. Vous êtes maître de conférence en civilisation britannique à Paris 4, Sorbonne. Merci à toute l'équipe, Camille Néran qui a préparé cette émission, Cécile Lavolo, Romain Dubrac. Vos réactions sur Facebook, bien sûr Twitter, et 7milliards@rfi.fr, ou tout simplement réécouter nos émissions en podcast sur rfi.fr à la page des 7 milliards de voisins. Demain, 7 milliards de voisins, nous nous interrogerons pourquoi si peu de femmes ingénieures en France.